Bonjour à tous. Alors, ça n'a pas été facile de me retrouver devant vous ce matin, parce que c'était une semaine assez particulière. En fait, pour tout vous dire, c'était une semaine qui était la dernière que je passais dans mon entreprise, après 11 ans. Donc, c'était assez compliqué de... avec toutes les émotions que ça génère, toute l'organisation, etc., c'est d'arriver à me détacher de tout ça pour me consacrer à la parole de Dieu pour vous apporter une parole ce matin. Et franchement, c'était difficile de mettre mes émotions de côté. Et finalement, je me suis dit, je vais faire tout le contraire, mais je vais utiliser mes émotions plutôt que d'essayer de m'en détacher. Et donc finalement, je vous apporte un message sur un thème qui pour moi, m'apporte une émotion particulière, qui est quelque chose que j'ai toujours eu dans mon cœur, qui m'a toujours préoccupé. Donc ça parle pas mal, en particulier, des droits des femmes. Et ça tombe bien aussi, c'est une heureuse coïncidence que ce soit une semaine où il y a eu une retraite spirituelle pour les femmes pendant 3 jours. Pourquoi ? Parce que je pense qu'elles ont compris que le Seigneur a un message particulier pour elles, le Seigneur a une attention particulière pour elles, et elles ont voulu aussi, d'une certaine manière, répondre à ça, en mettant du temps à part pour notre Seigneur. L'autre thème aussi qui est connexe à ça, parce que c'est vrai que quand je viens du Cameroun, c'est vrai que quand je discutais avec mes copains, souvent dans les cours de récréation, au lycée, au collège, ils disaient des choses sur les femmes qui me choquaient. Et je me rendais compte que j'étais un peu le seul à dire carrément à me retrouver à défendre les filles en disant « Mais non, c'est juste des gens comme d'autres êtres humains comme nous. » Il n'y a pas à les considérer avec des a priori, avec un sentiment de supériorité ou je ne sais quoi de ce genre. C'est vrai que même quand je repense encore à ça, ça me fait pas mal d'émotions. Et d'une manière générale, c'est vrai que beaucoup de monde, dans le monde, les chrétiens passent un peu parfois, parce que malheureusement, dans le monde chrétien aussi, on peut avoir ce genre de préjugés, pour des personnes rétrogrades, des personnes qui renient les progrès du monde moderne. Parce que le monde moderne aujourd'hui nous dit que, on a progressé et que désormais, il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que le monde moderne il nous dit d'une façon très, très particulière, qui n'est pas vraiment la même manière qu'on le voit dans la Bible. C'est vrai que dans toutes les idées supposées modernes qu'on voit dans les journaux, par les hommes politiques aussi, par des personnes connues, même par nos amis, par des membres de notre famille, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées qui sont propagées dans le monde qui vont à l'encontre de ce que nous pouvons voir dans la Bible. Mais elles sont propagées dans le monde au nom supposé de la liberté totale des femmes, de l'égalité des femmes et des hommes. Et au nom de cette liberté, on est prêt à se laisser faire des choses parfois complètement contre nature, se laisser aller à une sexualité débridée. Il y a pas mal de choses. Et je pense que c'est simplement une interprétation erronée de ce que devrait être la liberté que nous laisse le Seigneur. Et c'est vrai que quand on s'oppose à ça, quand on a un discours de vérité qui est basé sur la Bible, on passe pour des gens rétrogrades, on passe pour des gens qui ne sont pas modernes. Alors, est-ce que être chrétien de nos jours, c'est un choix qui nous amène à renier toute idée de progrès ? Est-ce que nous sommes condamnés à vivre dans l'Antiquité parce que nous nous référons toujours à un livre qui a été écrit depuis pas mal d'années maintenant et que nous considérons toujours comme étant la base de notre vie ? Et comme je le disais, j'ai toujours eu aussi en particulier pas mal du mal avec des discours qui aussi parfois s'appuient sur la Bible pour déterminer que la femme a forcément une position d'infériorité par rapport à l'homme en raison de une interprétation de l'ordre créationnel, par exemple, en raison de recommandations différentes qui sont faites aux femmes et aux hommes dans le cadre du mariage, par exemple. Il peut y avoir des interprétations erronées qui amènent à penser que le statut de la femme et de l'homme, vu de la Bible, vu de notre Seigneur, est différent. Alors, j'ai choisi un texte qui nous parle de façon concrète de la manière dont Jésus-Christ, lui, y voit les femmes, plutôt que de simplement faire des discours creux. Et je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Jean, au chapitre 4. Donc Jean, chapitre 4, à partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 30. Donc c'est Jésus-Christ qui se retrouve en Samarie. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. Lorsque Jésus l'apprit, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Et c'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La samaritaine s'exclama. « Comment ? Tu es juif et tu me demandes à boire ? À moi qui suis samaritaine ?» Les juifs, en effet, évitaient toute relation avec les samaritains. Jésus lui répondit. « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu ton eau vive ? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. « Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. « Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient. » où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent par l'Esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais qu'un jour, le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il est venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. » Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda, « Que veux-tu ? Que lui veux-tu ? Ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche et se rendit à la ville. Et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Donc voilà une histoire qui se passe entre Jésus et une femme samaritaine, et qui est vraiment, à mon avis, rempli de beaucoup de symboles de la manière dont notre Christ considère les relations qu'il a déjà avec ses créatures d'une manière générale, et en particulier un certain type de créature qui souvent se voit attribuer des étiquettes, comme disait Marie-Laure tout à l'heure. Il faut savoir que quand Jésus parle à une femme samaritaine, déjà, il y a la circonstance. Jésus-Christ, en fait, il vient de parcourir un long chemin. Il arrive en Samarie, au bord d'un puits, il est midi, donc je pense qu'il est accablé de chaleur, il est fatigué, il a besoin de boire de l'eau. Et il n'a rien pour puiser de l'eau. Donc c'est déjà, il va lui parler d'une manière tout à fait naturelle, il n'a pas créé un sujet de conversation qui serait, qui sortirait de nulle part. Mais d'après les principes des rabbins juifs, qui jugeaient une femme indigne de toute instruction, en fait, à cette époque-là, il n'était pas du tout bien indiqué de parler à une femme, d'avoir de longs entretiens, comme on peut le voir de Jésus avec cette femme samaritaine. Et encore pire que ça, les Juifs évitaient de parler aux Samaritains. Donc on voit que là, on a une double étiquette. On voit Jésus qui transgresse l'étiquette de parler à un Samaritain, et en plus de parler à une femme, longuement, alors que l'étiquette qu'elles avaient sur elles, c'était carrément qu'elles n'avaient aucune instruction. Et en plus, une étrangère, il risquait même carrément de se souiller à aller vers elle et à lui parler. Mais Jésus ne s'embarrasse pas d'étiquette. On peut dire que Jésus nous envoie un message fort d'émancipation, non seulement de la femme, mais de tous les peuples qui sont opprimés et méprisés au nom de principes douteux et rétrogrades. Et c'est justement très à la mode dans notre société actuelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est très à mode d'afficher une volonté de briser les barrières, qui séparent les hommes et les femmes, qu'on dit maintenant parfaitement égaux, de briser les barrières qui empêchent les gens d'avoir une inégalité de chance dans la vie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre société, plus de 2000 ans après Jésus-Christ, est-ce qu'on peut se dire que finalement, aujourd'hui, ceux qui veulent encore suivre Christ et se conformer à sa parole, finalement, aujourd'hui, sont devenus un peu des has-been rétrogrades par rapport à ce que notre société, finalement, nous vend dans ces discours. Dans quel but, à votre avis, dans la société d'aujourd'hui, quand on entend ce genre de discours à la télé, par exemple, ou dans les journaux, quel est le but qui est poursuivi par le monde, par les gens? Et est-ce qu'on peut comparer ce but par rapport à celui qui est poursuivi par Jésus-Christ? Est-ce que les personnes dans le monde qui nous vendent cette égalité de la femme et de l'homme, cette égalité entre tous les peuples, poursuivent des intérêts qui sont vraiment les intérêts de chacun? Ou est-ce que c'est des intérêts à eux, personnels, politiques, économiques, ou quelque chose de ce genre-là? En fait, plutôt que de me lancer dans un grand débat philosophique, je voulais juste vous soumettre des exemples concrets, précis, auxquels on est confronté dans la France aujourd'hui. Par exemple, ces derniers temps, notamment pour les deux derniers gouvernements qu'on a eus, il y a eu beaucoup de discours qui laissaient penser qu'en fait, ils voulaient faire des gouvernements à parité, avec une totale parité entre hommes et femmes. Ils n'ont pas toujours réussi, mais en tout cas, on voyait bien que c'est là. Ils communiquaient beaucoup sur la mixité du gouvernement, avec l'idée que, autant que possible, avoir le même nombre d'hommes et de femmes au pouvoir. Et plus près de nous encore, et ça, c'est un discours qu'on retrouve aussi dans beaucoup de grandes sociétés, qui communiquent pour dire qu'en fait, ils essaient d'avoir autant de femmes que d'hommes dans leur conseil d'administration. Je vais revenir là-dessus après. Récemment, vous avez tous remarqué qu'il y a eu une nomination dans le gouvernement de la France d'une jeune femme noire d'origine africaine à un poste qui est très, très visible, donc de secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. C'est un poste important, un poste très médiatique, confié à une personne qui cumule pas mal d'étiquettes, pas mal de barrières. Elle est très jeune, elle est de couleur, elle est une femme. Et notre gouvernement nous montre qu'il fait preuve d'ouverture en la nommant. Il y a autre chose qui m'a marqué aussi de plus près, même si aujourd'hui, c'est désormais mon ancienne entreprise. En fait, j'ai été marqué ces derniers mois par une campagne publicitaire qui est lancée par le groupe AXA. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement typique du type de discours qu'on a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que fait AXA? AXA a décidé de se choisir Serena Williams comme image de marque dans le monde. Alors, AXA, c'est quand même le leader mondial d'assurance dans le monde. Donc, le fait de choisir Serena Williams, c'est vraiment un message fort qui est envoyé au monde entier. Et le slogan qu'ils ont choisi, c'est « Know you can ». Tu sais que tu peux, tu sais que tu es capable. Ça doit vous faire penser à quelque chose. Ça ressemble au fameux « Yes, you can » de Barack Obama. Donc, je pense que ce n'est sûrement pas un hasard. Et donc, je le lis dans la nouvelle promesse d'accès envers ses clients, c'est d'être un partenaire qui les encourage et les aide à se sentir plus confiants afin qu'ils atteignent leurs objectifs et réalisent leurs rêves. Alors, j'ai, moi, assisté à une conférence de Serena Williams, justement, qui expliquait quelle était sa vision de cette image qu'elle veut donner à AXA. Alors, sa vision, c'était ceci. Sois consciente et sûre de ta propre force intérieure pour pouvoir réussir, malgré tous les écueils qui peuvent se présenter à toi. Je rappelle quand même que Serena Williams, c'est quelqu'un qui a été... ses parents vivaient dans un ghetto et ils ont décidé de faire deux filles spécifiquement pour leur apprendre le tennis, pour qu'elles réussissent et que ça permette à toute la famille de réussir avec elles. Donc, ils sont quand même sortis du ghetto et ils ont fait deux filles qui sont devenues numéro un mondial de tennis. Donc, quand Serena Williams donne ce discours au monde entier de dire « Si tu crois en tes propres forces, ben, tu peux partir de rien et arriver à la plus grande réussite possible ben, », on la croit quand elle dit ça. Parce qu'il y a un contexte. Mais ce qu'elle dit, c'est que crois en toi et tu surmonteras tous les obstacles devant toi, notamment ceux dressés par ceux qui ne te font pas confiance ou veulent rabaisser ta valeur. Toi et toi seul est l'auteur et le responsable de l'accomplissement de ton destin et de ta réussite. Voilà le message supposé positif que nous donne le monde. Un message qui renie complètement la toute-puissance de Dieu dans l'accomplissement de notre destin. Un message qui place Dieu au même niveau que l'homme, au même niveau que Dieu, seul maître de son destin. L'homme ou la femme ne se sauvera que par la force de sa propre volonté et de sa propre confiance en lui-même. Voilà ce que nous dit le monde moderne, et c'est comme cela qu'il compte nous redonner notre pleine liberté, quelles que soient les barrières qui sont dressées devant nous. Alors, qu'en pensez-vous ? Et si on compare avec ce que nous dit la Bible concernant notre pleine liberté et notre réussite ? Pour cela, je vous propose de revenir à notre texte, à Jean chapitre 4. Donc on lit au verset 1, « Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ce soin à ses disciples. » Dans l'évangile de Jean, il faut se rendre compte que c'est la toute première mention de l'opposition que Jésus va subir tout au long de son ministère, de la part des pharisiens notamment. C'est une des premières fois qu'on le mentionne. Les pharisiens, ils entendent parler de la popularité grandissante de Jésus, ce nouveau prophète qui succède à Jean-Baptiste. Et ils sentent tout de suite que leur autorité va être menacée. Donc à leurs yeux, Jésus devient quelqu'un qui est dangereux, voire même plus dangereux que Jean, parce qu'en plus, il accomplit des miracles. Mais pour Jésus, le moment n'était pas encore venu d'affronter les pharisiens. Il savait qu'il y aurait un moment où il aurait à être face à eux. Il savait qu'il y aurait un moment où il irait vers la croix. Mais à ce moment-là de son ministère, Jésus choisit de se retirer discrètement. Et il choisit de repartir en Galilée. Mais il se trouve qu'entre la Judée et la Galilée, vous avez la Samarie. Alors, ce que faisaient les Juifs en général, quand ils partaient de Judée pour aller en Galilée, et que les Juifs, en fait, ils ne voulaient pas tellement rencontrer les Samaritains avec toutes les étiquettes qu'ils avaient, ben, ils faisaient un grand détour pour ne pas y aller. Jésus lui dit, ben non, je suis en Judée, je vais en Galilée. En passant par la Samarie, je vais gagner plusieurs jours, ben, j'y vais. Ça, c'est déjà une certaine preuve de la modernité de Jésus par rapport à son époque. C'est-à-dire qu'en fait, il se dispense des préjugés de ses frères juifs qui sont prêts à faire des détours pour ne surtout pas croiser un Samaritain. Lui dit, ben, si le chemin le plus court passe par la Samarie, moi j'y vais. Et je pense que c'est déjà une certaine manière pour Jésus de nous apporter un nouveau discours, de prendre ses distances par rapport notamment aux pharisiens et par rapport aux interprétations de la loi qu'on avait à ce moment-là. On voit que Jésus, déjà d'une certaine manière, nous annonce la bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui va casser les codes qu'on avait à l'époque. Et comme vous le savez, c'est une bonne nouvelle qui va casser les barrières que nous avons entre nous et Dieu et on pourra avoir une relation directe, simple avec Dieu grâce à tout ce ministère de Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus a pris, l'a pris, donc on parle de, justement de l'opposition des pharisiens, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ de Jacob, du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » La femme samaritaine s'exclama, « Comment ? Tu es juif ? Tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Et comme je le rappelle, comme nous le dit aussi le texte, les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jésus fait preuve d'une grande tolérance, d'une grande ouverture d'esprit par rapport aux contemporains de son époque. Et finalement, on peut voir au travers ça que Jésus fait preuve d'un amour, d'un grand amour pour les hommes et les femmes, mais que en faisant preuve de cet amour, il adopte carrément une attitude qui est vue comme un scandale pour les gens de cette époque-là. Une folie. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que la parole de Dieu, c'est une folie pour des personnes qui ne croient pas. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Et c'est vrai que quand Jésus s'adresse à cette femme samaritaine, c'est quelque chose que les Juifs n'arrivent pas à concevoir. Et même les Samaritains eux-mêmes, je pense qu'ils auraient été surpris. C'est vrai que personne, ni juif, ni samaritain, n'aurait compris pourquoi Jésus se permet d'engager une longue conversation avec une samaritaine. Moi, ce que j'y vois, c'est que Jésus, qui est l'incarnation de la parole de Dieu, il nous envoie un message moderne de tolérance, un message aussi d'ouverture au peuple méprisé. La parole de Dieu est ouverte à tous, accessible à tous, sans aucune discrimination d'origine ethnique, sans aucune discrimination de genre. Et en plus, on peut penser que Jésus a prévu cette rencontre à l'avance, puisque Jésus est Dieu et qu'il a la capacité de voir dans le futur. Jésus va rencontrer cette personne dont il sait à l'avance qu'elle est destinée à lui appartenir. Et ça, c'est son privilège divin de savoir ça. Mais on a vu que la femme samaritaine était très, très surprise. Elle lui dit, mais toi, un juif, tu m'adresses la parole ? C'est vrai que quand Jésus vient à nous, si vous vous replacez dans le contexte de nous ici aujourd'hui, souvent nous sommes surpris, souvent nous sommes déstabilisés, nous sommes émerveillés, nous sommes dépassés par la portée de son amour. Souvent nous disons que nous ne le méritons pas. Nous savons ce que nous sommes, nous savons ce que nous avons fait. Nous nous mettons nous-mêmes une étiquette et on se dit, mais non, jamais Jésus acceptera de venir parler avec moi. Ça n'arrivera pas parce qu'il va voir comment je suis. Et il va juste passer son chemin, il va faire le grand détour que faisaient les Juifs, et il ne va pas passer par la Samarie. C'est en général ça qu'on se dit pour nous-mêmes. Et Marie-Laure l'a bien souligné, qu'en plus des étiquettes que nous mettons aux gens, nous nous mettons aussi à nous-mêmes des étiquettes. Mais Jésus va s'adresser à cette femme samaritaine. Et pour moi, c'est déjà un premier miracle. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, il s'adresse à elle d'une façon polie et respectueuse. Il lui dit, s'il te plaît. Ça, c'est le deuxième miracle, de la placer à un niveau qui est celui auquel il placerait, par exemple, un homme juif, quelqu'un voilà, qu'il rencontrait dans la rue à Jérusalem. Et le comble du comble, il va encore plus loin. Il lui demande de l'eau. Vous vous rendez compte? Jésus est prêt à boire de l'eau puisée par une samaritaine. Je pense qu'ici, il y avait des témoins à ce moment-là, il y aurait eu des gens qui seraient carrément choqués, qui auraient trouvé ça inadmissible. Jésus fait quelque chose d'inadmissible. Et moi, je trouve là-dedans le fait que quand on taxe des chrétiens qui suivent la parole de Dieu de rétrograde, moi, je pense que la parole de Dieu, elle est plutôt beaucoup plus moderne que tout ce que la société peut penser. C'est la parole de Dieu qui nous libère vraiment de tous les carcans qu'on peut avoir dans cette société. Et de façon réelle, pas simplement pour des motifs de politique ou d'économique ou des choses cachées. Jésus brise toutes les barrières archaïques de préjugés de toutes sortes dans le but de nous sauver, dans le but de nous libérer véritablement, dans le but de nous donner une victoire authentique. Et l'autre message aussi que Jésus envoie, en dehors du fait que la personne à qui il s'adresse est une Samaritaine, on voit que c'est aussi, il s'adresse aussi à une femme. Et ce n'est sûrement pas hasard. Quand Jésus traverse la Samarie, il va en premier vers une femme. Il nous envoie un message que s'agissant du salut, s'agissant de l'accès au royaume de Dieu, une femme n'a rien du tout à envier à un homme. L'amour de Jésus pour les hommes, il est le même pour les hommes et les femmes. Il n'y a strictement aucune différence. Les préjugés, les privilèges de la société à l'époque et encore aujourd'hui qu'on peut voir dans notre société par rapport aux femmes n'ont aucune valeur quand il s'agit d'accéder au salut, n'ont aucune valeur aux yeux de Jésus. Ce que Jésus veut, c'est que tous et toutes soient sauvés. Alors, qu'est-ce qui vous parle le plus ? Un gouvernement à parité d'hommes et femmes ? Alors que dans le même temps, quand on regarde le nombre d'élus, reste toujours largement minoritaire. Est-ce que ça vous parle plus d'avoir un conseil d'administration où il y a autant de femmes que d'hommes? Si quand vous regardez l'entreprise en question, vous vous rendez compte que le salaire moyen des femmes est bien inférieur à celui des hommes? Ce n'est qu'un affichage politique ou publicitaire, alors que la vie éternelle en Jésus-Christ, elle est réellement accessible de manière pleine et totale à tous, et de manière identique. Et si je poursuis dans le texte au verset 10, on voit Jésus lui répondit, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc ton eau vive ?» Vous voyez que Jésus, il est en train de prêcher, il est en train déjà d'apporter la bonne nouvelle à cette femme. Pour croire en Jésus, ça ne se fait pas tout seul. Vous n'êtes pas dans votre chambre, en tout cas c'est très très rare, et vous vous levez comme ça et vous dites « je crois en Jésus ». Pour croire en Jésus, il faut entendre la parole, il faut la comprendre, il faut l'accepter. C'est pour ça que c'est important d'évangéliser, c'est pour ça que c'est important de toucher le maximum de personnes. Parce que pour croire, il faut déjà être confronté à la parole. Et après, c'est à chacun de nous de répondre positivement ou négativement, d'accepter personnellement la main qui nous est tendue par Jésus-Christ. Jésus-Christ veut nous donner à boire de l'eau vive, de l'eau qui donne la vie éternelle en Christ. Jésus prêche la bonne nouvelle de l'Évangile à la Samaritaine et cette bonne nouvelle trouve un terrain fertile en elle, un terrain accueillant. Il trouve en elle une âme qui a soif, qui est à la recherche de la bonne nouvelle, qui a soif d'être libérée de ses chaînes, notamment dans la société où elle vit. Et on voit que la femme samaritaine lui répond d'une manière qui montre bien que Jésus ne s'est pas trompé de personne. Elle l'appelle maître, en signe de respect et de soumission. Il y a déjà un chemin qui se fait dans son esprit. Elle commence déjà à considérer Jésus d'une manière différente, sur la base des paroles qu'il lui a dites. Mais il y a encore du chemin. Parce qu'accepter la parole de Dieu, souvent, nous avons un long chemin à parcourir pour comprendre pleinement qui est Jésus et qu'il prenne toute la place dans notre vie. Et pour cette femme aussi, il y a encore un chemin à parcourir avant qu'elle comprenne complètement qui est face à elle. Mais le point positif, c'est que ce chemin, elle veut le parcourir. Mais comment est-ce qu'on le voit ? Elle pose des questions à Jésus pour comprendre. Elle a soif de rencontrer un sauveur. Mais comme la plupart des personnes, est-ce que vous vous rendez compte du type de questions qu'elle pose à Jésus ? En fait, Jésus lui demande de l'eau, elle lui met « Maître, tu n'as pas de seau, le puits est profond. » Pour l'instant, en fait, alors que Jésus lui apporte la bonne nouvelle qui va la sauver, elle se préoccupe encore de choses terre à terre. Elle se préoccupe encore de choses du quotidien. Et nous, on est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que quand on rencontre Jésus, on a d'abord, dans un premier temps, à cœur de lui apporter en prière, de lui apporter des choses matérielles de notre quotidien. on ne réalise pas encore complètement toute la portée de ce que le Christ peut transformer et changer dans notre vie. Et on va lui demander de commencer par améliorer des petites choses quotidiennes qu'on a dans notre vie. Et au fur et à mesure, c'est vrai, en grandissant avec le Seigneur, on prend plus conscience que le ministère qu'il a pour nous, l'amour qu'il a pour nous, va au-delà de simplement l'amélioration de petites choses matérielles de notre quotidien. Mais c'est vrai que c'est une étape aussi par laquelle on passe, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours en tête aussi dans nos prières, et c'est normal. C'est vrai que ça fait partie des choses que le Seigneur peut nous apporter, mais le Seigneur, il veut nous apporter beaucoup plus que ça. C'est vrai que nous, on est souvent plus ou moins focalisé à demander à Jésus d'agir sur des détails pratiques de notre vie quotidienne, en oubliant que sa mission ne se limite pas à ça. Elle ne se limite pas à l'amélioration de notre confort quotidien sur terre. Et puis, l'autre chose qu'on voit dans la réaction de la femme samaritaine, c'est quelque chose qui nous arrive aussi tous les jours. Alors, d'une part, on est focalisé sur les choses matérielles, et puis à d'autres moments, qu'est-ce qui se passe? On se rebelle. On se rebelle. On n'est pas tout le temps très attaché à Jésus-Christ. On se rend compte que on retombe, on fait des choses qui n'approuveraient pas. Et on voit aussi que la femme samaritaine, elle a commencé par appeler Jésus maître, et après, l'instant d'après, elle se rebelle. On voit que dans son esprit, il y a l'orgueil national de Samaritaine qui rejaillit dans son esprit. Et elle demande à Jésus s'il se voit plus grand et plus puissant que le patriarche qui avait fait don de ce puits à ses descendants et qu'il avait trouvé suffisant pour lui-même, pour ses fils et pour ses troupeaux. C'est clairement de l'ironie. Elle est en train de dire à Jésus, mais est-ce que tu te crois plus puissant que Jacob ? Qui es-tu? Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Mais Jésus lui répond de façon très très calme. Si tu savais qui est celui qui te parle, elle appelle Jacob notre ancêtre, parce que c'est vrai, les Samaritains prétendaient descendre de ce patriarche par Joseph et ses fils Éphraïm et Manassé. Ce sont des paroles, en fait, plutôt pour provoquer Jésus, pour s'opposer à lui et le tester, voir qu'est-ce qu'il va répondre. Mais Jésus n'est pas surpris. Et Jésus lui poursuit son enseignement. Il poursuit la proclamation de la bonne nouvelle. Il n'est pas surpris par sa réaction. Il sait que c'est une âme qui est appelée à lui appartenir. Et donc, il continue de l'instruire concernant la bonne nouvelle. Au verset 13, il dit, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Quand on compare l'eau du puits et l'eau vive dont parle Jésus-Christ, quand on compare ce que nous offre le monde, ce qu'il nous promet en trompe-l'œil, sans aucune garantie de succès, et la vie éternelle en Jésus-Christ, il n'y a aucune comparaison qui tienne. Cette eau-là, dit Jésus, ne peut désaltérer que pour un moment. La soif renaît bientôt. Il en est de même de toutes les jouissances de la terre, qui sont incapables de satisfaire notre âme. Jésus seul peut étancher notre soif pour toujours, avec cette eau vive qu'il nous propose. Il y a quelque chose, un petit détail qui est encore plus formidable parce qu'il est écrit « Et cette source de vie et de bonheur ne vient pas uniquement de l'extérieur. Elle commence à se former en nous et à se renouveler à l'infini par le Saint-Esprit. » On voit qu'au début, c'est compliqué de comprendre toute la portée de cette nouvelle source de notre vie, que nous avons vraiment besoin de mieux comprendre la parole par des enseignements et par des applications pratiques. Et c'est vrai que même moi, quand je lis ce texte, et c'est vrai que quand vous voyez les paroles de Jésus, « Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, je lui donnerai une eau qui fera qu'il n'a plus jamais soif, et cette eau deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est vrai qu'on a du mal à donner un contexte vraiment pratique à ce que dit Jésus. Et je pense que la femme samaritaine, elle doit être un peu décontenancée, elle n'arrive pas à comprendre toutes les paroles de Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus fait en général dans ces cas-là? Ben, il va prendre des cas pratiques. Il va parler en parabole, il va parler avec des images. Et là, il va parler à la femme samaritaine d'une manière qu'elle va comprendre tout de suite qui il est. Et il lui dit, « Va chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » « Je ne suis pas mariée, lui, répondit-elle. Tu as raison de dire, je ne suis pas mariée. En fait, tu l'as été 5 fois, et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. » Vous avez vu l'évolution de la réflexion de la femme? Parce qu'elle se rend compte que Jésus est capable de savoir sur elle des choses que personne ne pourrait savoir en arrivant de nulle part. Et là, Jésus, avec des détails pratiques, ben, il continue de l'édifier, il continue de lui montrer qui il est vraiment. Le but de Jésus en donnant à la femme l'ordre d'appeler son mari, c'est aussi de lui faire prendre conscience de la situation dans laquelle elle est. Parce qu'effectivement, elle a eu 5 maris qui étaient légitimes, mais aujourd'hui, elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Et ça, c'est quelque chose de très, très important que Jésus souligne là. C'est-à-dire que pour pouvoir accepter la parole, ben, il faut déjà pouvoir être dénoncer la situation dans laquelle on est, dénoncer le péché, être conscient et dénoncer la situation de péché dans laquelle on est. Et que ce n'est que par la repentance que Jésus peut finalement pardonner nos péchés parce que nous les dénonçons. Si nous ne les reconnaissons pas, mais ils restent enfuis et ils ne s'en iront pas. Donc Jésus amène la femme à reconnaître qu'effectivement elle est dans une situation qui n'est pas saine. Alors au début, elle fait un demi-aveu, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction, dans la direction de dénoncer ce qui est sa vie aujourd'hui pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Et elle voit aussi que Christ a la capacité de connaître tous les plus petits détails de notre vie. Rien ne lui est caché. Mais moi, ce qui finalement me touche vraiment en Jésus-Christ, ce n'est pas tant que ça qu'il puisse savoir et voir tout ce que j'ai fait, mais c'est qu'il ait le pouvoir de pardonner. Qui d'autre que Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner nos péchés? Jésus, quand nous nous repentons, il a le pouvoir de nous dire « Va, tes péchés sont pardonnés ». Et c'est pour ça qu'il est le Christ, c'est pour ça qu'il est le Messie. Et au verset 23, Jésus poursuit, « Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle. » lui dit Jésus. Alors, je ne rentrerai pas dans toutes les explications détaillées des paroles de Jésus parce que ça a moins d'importance dans le cadre du message que nous avons aujourd'hui. Mais je pense que dans le cadre de ce message, on se rend principalement compte que Jésus rencontre cette femme samaritaine et il a vraiment à cœur de la gagner pour la vie éternelle. Il prend le temps de lui parler. Il prend le temps de lui expliquer. Il comprend les contraintes, les incompréhensions qu'elle peut avoir. Il trouve le moyen qu'elle comprenne qui il est. Cette femme a vraiment une importance capitale pour Jésus. C'est une âme qu'il veut sauver. Dans son amour, il sait que c'est une de ses créatures. C'est une de ses créatures et il se dit, cette créature, je ne voudrais pas qu'elle se perde. Et c'est vrai que quand on se rend compte que cette créature, finalement, dans cette époque, c'est une femme, et en plus une femme samaritaine, quelqu'un dont personne n'en a cure, en fait, de sa vie, et qu'on voit l'importance que Jésus met et donne pour l'amener à la repentance, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous retenir notre attention, que l'amour de Jésus, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de toutes les étiquettes, de toutes les barrières. Et cet amour, Jésus, il ne l'a pas simplement pour la femme samaritaine, il l'a pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre situation, quel que soit notre genre, quelle que soit notre race, notre provenance, quel que soit ce que nous sommes et ce que nous avons fait, Jésus a cet amour infini pour chacun d'entre nous. Et la considération que Jésus donne à cette femme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il dit à cette femme, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » En fait, quand on lit l'évangile de Jean, c'est la première fois que Jésus s'exprime de façon aussi directe vis-à-vis de quelqu'un. C'est la première fois que Jésus dit à quelqu'un, « Je suis le Messie. » Et il le dit à qui ? À une femme samaritaine. Vous vous rendez compte ? Il ne le dit pas à Jérusalem devant le temple. Il le dit à une femme samaritaine devant un puits. Même à ses apôtres, ils ne s'étaient pas encore exprimés de cette façon aussi directe. Moi, ce que j'y vois, c'est vraiment cette importance que Jésus accorde à chacun d'entre nous. Et en particulier, qu'on saute de la tête que parce qu'on serait plutôt une femme qu'un homme, parce qu'on serait plutôt issu de telle ou telle communauté, on aurait peut-être une importance moindre aux yeux de Jésus. Et on voit que ce n'est pas du tout le cas. Quel privilège Jésus accorde à cette femme pour qui la société n'a que mépris et rejet. Jésus s'affranchit de toutes les limites dans lesquelles le monde veut l'enfermer. La portée du salut et la libération que Jésus nous apporte est vraiment extraordinaire. On peut prendre exemple dessus et l'appliquer à nous-mêmes, qui que nous soyons. Cette libération de la condamnation du péché et de ses chaînes nous donne accès au Père avec le titre de fils et fille de Dieu. Enfants de Dieu, membres du corps de Christ, frères et sœurs de Jésus, sans la moindre discrimination, une libération authentique de toutes les chaînes du péché, une libération qui a un impact majeur dans notre vie. Rien à voir avec ce que nous pouvons voir dans le monde qui sont juste des effets d'affichage. N'importe lequel d'entre nous, homme, femme, jeune, vieux, blanc, noir, riche, pauvre, grand, petit, peut devenir enfant de Dieu à condition de renoncer à son ancienne vie pour nous tourner vers Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Le salut est offert à tous, sans exception, dans le monde entier, sans aucune limite ni considération de pays, de couleur, de richesse. Il est accessible vraiment à tous et Jésus nous le prouve. Et ce que je trouve, et je vais finir là-dessus, formidable aussi, c'est que quand Jésus vient trouver cette femme, il n'a pas simplement pour elle des promesses lointaines. Un jour, peut-être, tu seras auprès de Dieu et tu auras la vie éternelle. Jésus change sa vie dès l'instant où elle décide de se tourner vers Jésus. Dès cet instant, son statut est différent. Dès cet instant, elle n'est plus cette femme samaritaine méprisée. Et on voit qu'elle... elle va aller vers les Samaritains pour leur parler de Jésus. Elle va aller proclamer qu'elle a probablement rencontré le Messie. Vous savez ce qu'elle fait ? Elle devient en quelque sorte un apôtre. Elle devient un apôtre. Et cet apôtre, c'est une femme samaritaine. Et c'est vrai que Jésus, quand il a choisi ses 12 apôtres, c'était que des hommes, c'était des juifs. Mais là, on voit une apôtre, finalement, qui est une femme samaritaine. Ça dit quelle est l'importance qu'elle a aux yeux de Jésus. Et l'importance que nous avons tous, les uns et les autres, aux yeux de Jésus, sans aucune discrimination. Amen.
Amen.
Je vais prier. C'est vrai, Seigneur, que tu m'as particulièrement touché par ce texte, parce que tu me permets aussi de me dire à moi-même que, bien que je me trouve si imparfait, quand je me regarde dans le miroir le matin, bien que je sois totalement désolé par ces péchés dans lesquels je retombe encore et encore, ces choses que je sais que je dois gommer de ma vie, mais qui sont encore là, Seigneur, je me rends compte de ta patience, je me rends compte de ton amour envers moi. Je me rends compte que quand je te donne ma vie, mais tu es d'une patience infinie et toujours tu reviens vers moi. Et quand je dénonce toutes ces choses, Seigneur, tu les effaces. Oui, Seigneur, tu as une considération toute particulière pour moi. Tu as une considération toute particulière pour chacun d'entre nous ici dans cette salle, quel que soit ce que nous sommes. quelles que soient les étiquettes qu'on peut nous mettre ou les étiquettes que nous pouvons nous mettre à nous, ton salut, il est vraiment pour chacun, pour tous. Et c'est un salut véritable. Un salut qui transforme totalement de notre vie, entièrement. Ce n'est pas qu'une illusion. Ce n'est pas que quelque chose voilà, qui va peut-être arriver dans un futur dont on ne sait pas quand il va arriver. C'est vrai, Seigneur, tu as déjà transformé ma vie. Et tu me tends la main à tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu veux, voilà, venir être avec chacun. Nous redonner la splendeur, la pureté que nous avions au moment où tu nous as créés. Et c'est vrai, Seigneur, toi seul peux le faire. Toi seul es le chemin, la vérité. Toi seul donne la vie. Et Seigneur, je voudrais simplement te demander de venir en moi, prendre toute la place, toute la place que tu n'as pas encore, et que je puisse vraiment marcher selon toi, Seigneur, selon ta parole. Et c'est la prière aussi que je te fais pour chacune des personnes dans cette salle, tous ceux qui te connaissent déjà, mais que tu te révèles aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore, et que tu leur dises elles sont importantes à tes yeux, toutes ces personnes. Elles sont capitales à tes yeux. Tu veux les sauver. Tu veux les transformer. Tu veux leur donner de l'eau vive, celle qui fait qu'elles n'auront plus jamais soif. Amen.